Mémoire vive.
Présentée par Christelle Le Polothèque.
Et préparée par Rachel Rimmer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Bertrand Delay, réalisateur et auteur du documentaire Opération Barbie, Affaire d'État, réalisé avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui sera diffusé le 10 mars prochain à 22h30 sur Arte. Dans ce documentaire, vous revenez sur la traque de Klaus Barbie de 1972 à 1983, date de son arrestation, alors qu'il vit tranquillement à La Paz en Bolivie, sous le nom de Klaus Altman, protégé tout à la fois par la CIA et par les juntes militaires d'Amérique du Sud. Cette traque démarre comme un roman d'aventure en 1972 avec Beate et Serge Klarsfeld, Régis Debray bien évidemment, et Gustavo Sanchez, militant Tupamaros, avant de devenir peu à peu une véritable affaire d'État qui va aboutir au procès Barbie qui se tiendra à Lyon en 1987. Alors on va bien sûr en reparler tout au long de cette émission, Bertrand Delay, mais tout d'abord, peut-être pourriez-vous revenir sur la genèse de ce documentaire qui était à la base une idée originale de Jérôme Clément, c'est bien ça ?
Oui, alors oui, en fait, Jérôme avait été le témoin d'une partie des discussions qui ont permis la gestion ou l'arrestation de Klaus Barbie entre États, puisque tout, c'est une particularité, c'est que tout est né dans les bureaux de l'hôtel de Matignon, donc dans les services du Premier ministre de Pierre Mauroy, à l'époque, et pas du tout à l'Élysée, dans un premier temps. Et que, à l'époque, Jérôme Clément, avant de présider Arte ou d'être auteur de documentaires aujourd'hui, il était conseiller pour l'audiovisuel à l'hôtel de Matignon sous Pierre Mauroy. Donc en fait, il a été témoin de ça. Et je crois qu'il a, à l'occasion de la mort de Pierre Mauroy, il a retrouvé des anciens camarades, on va dire. Et cette idée d'avoir été témoin de ce moment un peu historique a refait surface. Et puis, il a eu cette idée de documentaire. Et à ce moment-là, je suis venu pour faire le documentaire comme réalisateur. Voilà, j'ai été sollicité par Arte et par lui et Georges-Marc Benamou pour le faire, voilà, pour le réaliser.
Alors le film débute en 1972, donc au tout début de cette traque. Barbie a déjà été deux fois condamné à mort par contumace en France. Il a été repéré avant qu'on ne perde sa trace. Les Klarsfeld se sont mobilisés dès 1971 pour que le parquet de Munich ne classe pas le dossier de Barbie. Et Beate Klarsfeld retrouve Barbie au Pérou. Elle médiatise bien évidemment cette information et c'est Régis Debray qui va décider d'organiser un enlèvement.
Alors oui, mais ça se passe en deux temps. Alors moi, je suis parti sur 71, ce qui n'était pas l'idée première de Jérôme Clément, mais parce que je voulais montrer... D'abord, il y a des personnages communs, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qu'on voit en 71, Gustavo Sanchez, Régis Debray, Serge Klarsfeld, qui sont à nouveau acteurs 10 ans plus tard.
Donc, oui, c'est important.
Ça, c'est intéressant de comprendre ça. La deuxième chose, c'est que si on a pu arrêter Klaus Barbie, ça tient à deux personnes. D'abord, évidemment, et surtout... à Beate Klarsfeld, qui, à la face du monde, va montrer que Klaus Barbie, c'est Klaus Altman, et qu'au fond, ces deux identités, en fait, en réalité, constituent la même personne, et que donc, il faut arrêter désormais Klaus Altman et non plus Klaus Barbie, si on veut arrêter Barbie. Et la deuxième personne qui va apporter la preuve irréfutable, et c'est une archive qui, elle, n'avait pas été montrée à l'époque, pour différentes raisons de l'ORTF, mais qui était dans un reportage qu'avait fait Ladislas de Hoyos. Mais il y a un moment, Ladislas de Hoyos tend, et on a ces archives dans le film, tend une feuille de Klaus Barbie à Klaus Altman, c'est-à-dire qu'il le prend à son propre piège. Et finalement, Klaus Altman Barbie s'empare de la photo et on va découvrir que les empreintes digitales sur la photo sont celles de Klaus Barbie. Mmh. Donc à ce moment-là, il y a d'un côté l'affirmation et la démonstration, j'allais dire, écrite de Beate Klarsfeld. Et 6 mois après, il y a la démonstration, j'allais dire, scientifique par les empreintes de Ladislas de Hoyos qui montre que Klaus Altman est bien Klaus Barbie.
Et pourtant, après tous ces événements et l'enlèvement finalement qui échouera, l'enlèvement de Klaus Barbie qui échouera à cause d'un accident de voiture, il faut attendre les années 80 pour reparler d'une éventuelle arrestation. La gauche est passée au pouvoir en France et en Bolivie, et c'est sur le terrain de la politique, de la diplomatie, que va se jouer le destin de Klaus Barbie.
Alors, il y a plusieurs choses qui font que le destin de Klaus Barbie bascule dans les années 80, mais il y a à la fois la rencontre, j'allais dire, la bascule politique avec d'un côté 81 en France et en Bolivie. Il y a aussi un autre élément, je n'ai pas pu le creuser autant que je le voudrais, parce qu'un film ne fait que 52 minutes, mais c'est que en Bolivie, en 78, il y a eu la gauche avait été régulièrement élue et le gouvernement a été, délégitimé par un...
Régulièrement élu, c'est-à-dire de manière régulière ?
Oui, oui, de manière régulière. Et il a été le plus régulièrement aussi délégitimé par l'équivalent du Conseil d'État bolivien pour permettre l'arrivée à nouveau d'un régime autoritaire dans lequel Klaus Barbie avait ses entrées. Donc ça a à nouveau protégé Klaus Barbie, mais pour pouvoir tenir économiquement, l'assise politique des coups d'État répétés de la junte bolivienne était de plus en plus réduite, était de plus en plus liée aux narcotrafiquants. Et Reagan a été très important, et Bush père, comme patron de la CIA. C'est autant la CIA avait, on le sait, beaucoup accompagné les juntes militaires dans les années 70 en Amérique du Sud. Autant, en ce début des années 80, la donne est un tout petit peu différente pour les... Et c'est, ça, j'allais dire, entame un processus de démocratisation qui va peu à peu balayer toute l'Amérique latine, avec la chute de Videla, la chute de Tancredo Neves qui arrive comme premier président au Brésil, élu, etc. C'est que dès que les jeunes sont liés aux narcotrafiquants, la Maison-Blanche a décidé de faire la guerre aux narcotrafiquants parce qu'il y a la guerre au cartel des drogues. Et à ce moment-là, la CIA lâche Barbie. Et ça, c'est très très important. C'est-à-dire qu'on lâche Barbie. Donc Barbie se croit, lui, encore protégé par les Américains, par la junte. Et quand la junte tombe, il n'a en réalité plus du tout de soutien. Et on a un élément qui vient accréditer ça dans le film, même si ça, je n'en parle pas aussi clairement, mais la grande information du film, c'est peut-être que je vous devance, mais c'est qu'on montre qu'il y a eu un échange d'armes pour ce film, et que cet échange d'armes est constaté, puisqu'on a remis la main sur des fils de la CIA, par la CIA, et la CIA donc finalement est au courant qu'on va livrer des armes à la Bolivie et n'intervient absolument pas. Elle laisse faire. Parce qu'ils ont lâché Barbie à ce moment-là. Donc Barbie tombe parce qu'il y a une conjonction, si j'ose dire, de plusieurs éléments. Il y a la CIA, il y a les changements politiques en Bolivie, changements politiques en France, des acteurs qui avaient essayé 10 ans plus tôt qu'on retrouve 10 ans plus tard. Et donc voilà, c'est la fin pour lui. Et c'est tant mieux, d'une certaine façon.
Alors, l'intérêt aussi de ce documentaire, c'est que vous avez pu rencontrer les principaux acteurs de l'expulsion de Barbie, des Boliviens comme des Français, des témoignages souvent inédits d'ailleurs. Je pense notamment à Bernard Garcia ou à Antoine Blanca, qui ont eu un rôle clé.
Un rôle clé, alors, qui ont été très très importants. En fait, il y a trois personnes qui sont très importantes, et il y en a une que je n'ai pas pu avoir, mais effectivement, pour la France, c'est Antoine Blanca et Bernard Garcia, parce que Bernard Garcia est le premier qui, lorsqu'il discute avec un syndicaliste bolivien qui vient lui demander de l'aide, finalement met en balance l'aide qu'on peut apporter en échange de Barbie. Et la personne qui va appuyer ça dans l'appareil d'État, parce que lui n'est que conseiller, le ministre qui va appuyer ça très fortement, il l'évoque, c'est Gaston Defferre. Et Gaston Defferre, c'est pour une raison simple, c'est que Gaston Defferre a été arrêté, interrogé par Barbie, quand il était résistant, juste avant l'arrestation de Jean Moulin. Et donc, il y a une...
Oui, c'est lui qui va donner l'aval. Mais peut-être qu'on a été trop vite. Du coup, comment ça se fait qu'en 82, du coup, revient cette question
Pour comprendre, en 82, pourquoi ça revient? Parce que je pense qu'il faut... ça semble très, très loin maintenant. Mais dans les gauches, à la fois la gauche française comme dans la gauche sud-américaine, l'épisode chilien est encore très présent dans les têtes. C'est-à-dire que, au fond, cette élection démocratique et légitime de Salvador Allende, qui finalement finit tragiquement avec un coup d'État du général Pinochet, adoubé par les Américains à l'époque, est dans toutes les têtes. Et au fond, quand Gustavo Sanchez est à nouveau élu président en Bolivie, il sait qu'il ne peut pas faire il craint ne pas pouvoir faire confiance en l'armée. Et il lui faut des armes pour pouvoir, le cas échéant, constituer, si j'ose dire, avec la police, avec qui sera loyale, avec des syndicalistes, etc., une armée pour se défendre. Il n'a pas oublié que 3 ans auparavant, il avait été défait de manière parfaitement juridique à l'époque par le Conseil d'État. Et donc il envoie un missionnaire en France, qui est un syndicaliste bolivien, qui connaît Bernard Garcia par des réseaux de la résistance sud-américaine, et il lui demande de l'aide. Et
sans penser à Barbie.
Absolument pas. Il lui demande de l'aide, il lui dit, voilà, faut que tu nous aides, nous on est socialistes, vous êtes socialistes. Il y a eu le discours de Cancun, de François Mitterrand, et il faut que vous nous aidiez en nous donnant des armes. Et là, il y a un coup de bluff, d'une façon, de Bernard Garcia, et il dit, moi je veux bien vous aider, mais vous me filez Barbie en échange. Ah, et ça, c'est un truc absolument incroyable, c'est-à-dire que ça se passe à la cantine de Matignon, quand même. Parce qu'on a du mal à imaginer qu'en fait la chose naît comme ça au départ. Et donc voilà, donc la chose s'enclenche, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, Defer va mettre l'appareil d'État pour pouvoir obtenir des armes, déclasser de l'armée, etc., etc., qu'on va pouvoir, et de la gendarmerie, qu'on va pouvoir immédiatement donner aux Boliviens. Et en fait, tout se met en place progressivement. Monroy laisse faire. Et puis, à un moment donné, Serge Klarsfeld rentre dans la boucle pour faire un lobbying auprès de Régis Debray.
Qui était à l'Élysée à ce moment-là.
Qui était à l'Élysée, qui a rédigé le discours de Cancun, et qui doit essayer de forcer la main, on va dire ça comme ça, de François Mitterrand.
Oui, parce que vous revenez également sur les hésitations de François Mitterrand.
Oui,
qu'est-ce qui va finalement le pousser à accepter ce deal avec la Bolivie ?
Alors, il y a deux choses. Moi, j'ai une chose que j'ai pas pu mettre aussi clairement dans le film parce que je n'avais pas l'intervenant clé, ce qui est Hans-Dietrich Genscher, quelqu'un de très très important dans cette histoire, parce que Mitterrand, il n'est, contrairement, il y a une idée commune, enfin, si on veut relire ça, on va dire, ah oui, alors Bousquet, il voulait pas de Barbie. En fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'est absolument pas pour cette raison que Mitterrand est rétif à l'idée de récupérer Barbie. Il est rétif pour une raison extrêmement simple et qui s'explique aisément par rapport à la situation politique de la France vis-à-vis de son partenaire allemand en 83. Il y a une demande d'extradition qui a été établie. Vous faisiez tout à l'heure allusion au fait qu'une instruction est toujours en cours à Munich à la demande des Klarsfeld. Et cette instruction a déclenché une demande d'extradition. Et donc, quelque part, au regard du droit international, il y a un État qui est un État avec lequel vous êtes allié, qui est l'Allemagne par rapport à la France, et qui a réclamé Klaus Barbie. Et donc, au regard du droit, Barbie doit d'abord aller en Allemagne.
Quand bien même Barbie aurait été condamné déjà en France.
Oui, mais on n'a pas fait de demande d'extradition.
D'accord.
Nous, il a été condamné par contumace, certes, mais on n'a pas fait de demande d'extradition encore. Et donc on s'empresse d'ouvrir une instruction en France et de faire une demande d'extradition. Et là, Barbie a encore quelques complicités. La demande d'extradition française avec le mandat d'arrêt international est refusée par Interpol. Donc la France se retrouve, j'allais dire, au regard du droit international, il n'y a qu'une solution, c'est que les Allemands renoncent, le pouvoir politique allemand renonce à Barbie. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est ça, mais Mitterrand, au fond, ne veut pas aller contre l'allié allemand. Mais il faut se remettre dans le contexte. 83, c'est un moment où l'expérience, on va appeler ça comme ça, des deux premières années de gestion, avant le fameux tournant de la rigueur, a été économiquement assez difficile à l'échelle européenne. Le franc a été plusieurs fois dévalué. Et les Allemands ont énormément, économiquement, aidé les Français. Et donc Mitterrand, il est redevable aux Allemands de ce point de vue-là. Et donc Mitterrand, sa ligne, c'est le droit international d'abord. Et le droit international, ça doit aller en... Barbie doit être présenté, doit donner aux Allemands. Et il y a deux éléments politiques qui sont en contradiction. C'est que les Boliviens, puisque les Français sont prêts à livrer des armes, ils préfèrent qu'ils le livrent à la France que le donner contre rien aux Allemands. Donc ça, c'est le premier élément, évidemment. Et le deuxième élément, c'est que les Allemands, en réalité, ne sont pas très chauds pour récupérer Barbie. C'est-à-dire que les tribunaux et la séparation des pouvoirs aussi en Allemagne ont enclenché quelque chose, mais le pouvoir politique n'a pas spécialement envie de récupérer Barbie, parce que Barbie a été non seulement un agent de la CIA, mais aussi un agent de l'Allemagne de l'Ouest. Et donc, ils n'ont pas du tout envie que cette espèce de duplicité de l'Allemagne dans sa dénazification, en réalité, puisque c'est de ça dont il s'agit, apparaisse au grand jour. Il y a un homme qui va, en gros, dire à Mitterrand, et il n'aime pas qu'on lui rappelle ça, parce que moi, ça, c'est ce que m'a dit Debré, il n'a pas voulu le dire devant la caméra, mais il m'a dit « Genscher a été très important, c'est peut-être lui qui a été convaincu Mitterrand. » En lui disant « Nous, on n'en veut pas, si vous le prenez, ça nous arrange. » Et quand j'ai eu Genscher au téléphone pour lui demander de participer au film, et quand je lui ai fait état de ça, je me suis fait copieusement insulter. Donc toutes les vérités ne sont pas encore bonnes à dire, encore aujourd'hui. Et c'est comme ça que dans le film, on a l'ambassadeur.
Genscher, quel était son
rôle? Il était ministre des Affaires étrangères. Il était ministre des Affaires étrangères allemand.
D'accord.
Donc il a traité, ils ont évoqué ça avec Mitterrand. Et en fait... J'ai, au bout d'un gros travail de recherche, et je veux lui rendre hommage avec ce qu'on appelle la fixeuse, la journaliste qui travaille pour moi quand j'ai des films en Allemagne, Claudia Klein, à nous deux, on a pas mal ramé, mais on n'a pas du tout été aidé par le ministère des Affaires étrangères allemand, mais on a retrouvé les traces de l'ambassadeur allemand qui était en Bolivie. Et donc, moi, je me suis dit, si Genscher a décidé ça, et lui, il a eu des instructions comme ambassadeur. Donc, en fait, je n'aurai pas Genscher, mais je vais essayer de l'avoir lui pour qu'il me donne ses instructions. Et c'est ce qu'il fait dans le film. Et il nous explique que il préfère très nettement que Barbie soit jugée en France. Et c'est ce qui s'est produit.
Et on voit très bien, parce qu'il y a ces images d'archives incroyables de Klaus Barbie tournées par une équipe de journalistes boliviens, dont l'avion qui l'emmène vers Cayenne, c'est-à-dire ces moments, enfin, il est extradé. Et lui pense qu'il va en Allemagne, et du coup, il n'est absolument pas inquiet. Et il exprime très clairement aux journalistes boliviens qu'il interviewe qu'une fois en Allemagne, il va pouvoir enfin couler une retraite paisible.
Oui, parce que il y a deux choses. C'est qu'en Allemagne, il n'est pas poursuivi pour crime contre l'humanité. Et donc, il est poursuivi pour, un chef d'inculpation assez sommaire. Donc, en fait, il aurait fait 5 ans et au bout de 2 ans, il serait sorti. Puis voilà, puis la chose était réglée pour lui. Donc, et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que on a clairement... C'est ce que raconte le ministre de l'Information de l'époque, Peña, et dans le film. On a clairement... On n'a pas menti à Klaus Barbie. On ne lui a pas tout dit.
C'est qu'on, on n'a pas répondu.
On n'a pas répondu. On n'a pas tout dit. Voilà. Donc on a laissé le doute. Et donc lui, finalement, se fait... Il sait qu'il y a une demande d'extradition qui a été posée par les Allemands. Et donc il pense qu'il part en Allemagne.
En fait, il est sûr de ses soutiens jusqu'au bout. En fait, c'est un homme qui
ne doute absolument pas. C'est quelqu'un d'assez, on le sait, mais d'assez détestable jusqu'au bout, puisque il ne témoigne d'aucun remords et il est persuadé d'avoir ses soutiens. Alors, sur l'interview de Barbie, il y a une histoire qui est pas connue sur les coulisses de l'interview, mais qui est assez amusante. C'est qu'en fait au départ, il y avait un journaliste de, je crois que c'était Sigma TV ou Gamma TV, il faudrait vérifier, je crois que c'est Sigma TV, qui s'appelait Michel Parbeau, et qui avait négocié, parce qu'il savait, il avait déjà fait le débarquement américain sur l'île de Grenade, juste avant, et il avait été le seul journaliste occidental à filmer ça. Et donc, il avait un gros réseau en Amérique latine et il a vent de la volonté des Boliviens de se séparer de Barbie. Et donc, il va dealer avec les autorités boliviennes le fait d'être dans l'avion le jour où ils vont expulser Barbie. Et donc, ça doit être un Français, Barbeau, qui doit faire cette interview de Barbie dans l'avion. Et puis, au moment où l'expulsion de Barbie dans l'avion se fait, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gustavo Sanchez, dont le frère dirige la télévision publique bolivienne, dit « Mais c'est hors de question que une décision aussi importante pour le processus de démocratisation de la Bolivie, etc., que cela appartienne et soit mis en boîte et en image par une société privée française. C'est une décision bolivienne et nous devons la, j'allais dire entre guillemets, en garder trace. Et donc ce sera une équipe de télévision bolivienne qui fera l'interview. D'où le fait que l'interview qui est fait par Carlos Soria Galvaro, qui est interviewé dans le film, il dit bien, j'ai été prévenu au dernier moment, parce que c'est au dernier moment, quand ils apprennent, et Barbeau était là. Et en fait, on a dit à Barbeau, ben non, vous ne montez pas dans l'avion, c'est Galvaro qui va monter dans l'avion, c'est lui qui va faire l'interview.
Mais alors, vous dites donc qu'il s'agit d'un processus de démocratisation, cette expulsion, cette extradition de Barbie. Mais alors, pourquoi avoir laissé cacher si longtemps le fait que cette extradition soit liée à ce deal, à cet échange contre des armes ?
Parce que je pense que le gouvernement... D'abord, il y a deux choses. C'est que le gouvernement bolivien n'avait pas nécessairement envie de faire connaître qu'il était en train de constituer, le cas échéant, une milice contre l'armée. Donc, on peut aisément le comprendre. Et on a une archive où on a le président qui explique très, très, très bien que rien n'a été fait en échange de Klaus Barbie. Il ment effrontément.
Absolument, c'est sidérant même.
C'est absolument sidérant. Donc ça, c'est la première raison.
Avec une sorte de sourire peu narquois. Donc
sauf que c'est un secret de polichinelle en Amérique latine, tout le monde le sait. Et la deuxième raison, et ça arrangeait bien aussi les Français, c'est que ça a été un fiasco, puisqu'on le dit à la fin, c'est que les armes ne sont jamais arrivées à bon port.
C'est la raison pour laquelle c'est resté une sorte de tabou si longtemps, à votre avis ?
Quand vous vous trompez de destinataire, c'est toujours un peu gênant quand même dans ce genre de choses. Quand même. Donc voilà.
J'aimerais peut-être qu'on revienne très rapidement sur justement cette question de droit. Le fait que Klaus Barbie soit responsable de la mort de Jean Moulin a joué un grand rôle, vous l'avez dit, notamment auprès de Gaston Defferre, dans la mobilisation pour son arrestation. Mais donc Klaus Barbie ne pouvait pas être jugé pour des faits prescrits. C'est pour cette raison qu'on a commencé à chercher d'autres faits, imprescriptibles cette fois, des crimes contre l'humanité qui pouvaient justifier son arrestation. C'est ça finalement qui va permettre ce procès incroyable.
Oui, mais parce qu'en fait, le truc, c'est que les crimes contre l'humanité, l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, jusqu'en 82, c'est-à-dire jusqu'à Robert Badinter, la France n'a pas ratifié le traité sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, pour une raison extrêmement simple, qui n'a rien à voir, là encore, avec la collaboration ou autre, c'est simplement que ça pourrait concerner un certain nombre de crimes faits pendant la guerre d'Algérie. Et que, comme la première loi internationale sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité a lieu dans le peu de temps après la guerre d'Algérie, et que cette mémoire des exactions françaises est encore vivace, la France n'a pas ratifié. Et il faut attendre Robert Badinter pour que... il le dit d'ailleurs, Badinter, c'est une des discussions... quand il essaie de convaincre François Mitterrand, il lui dit... On a ratifié pour l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, et la suite logique, c'est ce que dit dans le film Robert Badinter, la suite logique, c'est de juger Klaus Barbie. Donc, simplement, on peut relancer, j'allais dire, une instruction contre Klaus Barbie, une fois qu'on a, on peut avoir ce chef d'inculpation. Mais à ce moment-là, se heurte un autre problème. C'est qu'une grande partie des crimes... Dans la première instruction, si on reprenait le premier dossier, eux sont des crimes de guerre et donc sont par définition prescrits. Et donc il a fallu chercher dans les nombreux crimes, j'allais dire les trop nombreux crimes de Barbie, des crimes qui, c'est assez terrible de dire ça, parce qu'on dit ça avec une froideur, mais c'est assez terrible, parce que c'est quand même la surenchère dans l'horreur, quand même, hein, mais c'est ça dont il s'agit. Donc on est allé dans cette surenchère de l'horreur, chercher ce qu'il y avait de plus accablant pour Barbie, et finalement, c'est le crime des enfants d'Isieux. Et la rafle de la rue Sainte-Catherine, qui sont deux éléments signés de la main de Barbie avec des noms de voilà et qui rentrent pleinement dans le crime contre l'humanité parce que ça n'est pas des crimes contre des résistants, etc. C'est des crimes parce que le seul tort de ces enfants, c'est d'être supposés juifs, parce que ça n'est même pas le cas de tous les enfants d'Isieux. Et pour la rue Sainte-Catherine, c'est dans une association. Donc le seul tort de ces gens est d'avoir été juif aux yeux. Donc là, on est tout à fait dans la définition du crime contre l'humanité, du crime raciste, etc. Et donc là, on sait que juridiquement, il n'y a pas de prescription possible. Donc on va s'employer à construire toute l'instruction, et le juge d'instruction le dit très bien, sur ces seuls éléments, pour pouvoir permettre, au moment où s'ouvrira le procès, la condamnation de Klaus Barbie.
Je vous remercie beaucoup, Bertrand Delay. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce documentaire, mais j'invite donc nos auditeurs à le regarder. Donc, Opération Barbie, affaire d'État, qui sera diffusée sur Arte le mardi 10 mars à 22h30. Un documentaire réalisé avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. C'était Mémoire vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web, radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.